Too far. Remue Ménage, c'est Onde Femme sur Radio Zone 93,8 tous les mercredis en direct de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue Ménage sur Radio Zone 93,8. Bonjour, bonjour aujourd'hui, mercredi, nous sommes de retour avec Remue Ménage, de retour parce qu'effectivement nous étions loin tout ce week-end et loin pour vous parler d'un événement super, Marianne.
Nous étions à Créteil au festival de films de femmes, rien que ça.
J'espère que vous connaissez le festival international de films de femmes
et
de Créteil.
Et de toute façon, si vous ne le connaissez pas, vous n'allez pas tarder à le connaître en détail.
Et nous devons remercier, avant même de commencer quoi que ce soit, Laurence
et Bénédicte,
qui sont nos antennes parisiennes et grâce à qui nous avons eu de nombreux contacts et notre travail fut grandement facilité.
Oh là là. Oh là là, allez, on va chanter un peu le blues avant de s'y mettre.
Oui, oui. Patricia Cass.
Je chante le blues. Soyez pas trop jaloux, mademoiselle boit du rouge. Mademoiselle chante le blues. Y'en a 8 heures par jour qui tapent sur des machines. Y'en a qui font la cour masculine, féminine. Les bottes comme on lèche des vitrines. Et la même qui font du cinéma qu'on appelle Marilyn. Mais Marilyn Dubois sera jamais dans ma jean. Faut pas croire que le talent c'est tout ce qu'on s'imagine. Mademoiselle chante le blues. Soyez pas trop jaloux, mademoiselle boit du rouge. Mademoiselle chante. Mademoiselle chante le blues. Soyez pas trop jalouse, mademoiselle boit du rouge. Mademoiselle chante le blues. Elle a du gospel dans la voix. Elle y croit. Mademoiselle chante le blues. Oh, le blues. Le blues.
A daddy told me a long time ago, never take any from a stranger. I should have thought about that when I met you. I should have run away from the danger. Oh, but like a child, I believe what you said. I let your lies run dreams through my head. I let you have what you wanted, and now you're gone. And you left me cussing and crying in a canoe. She knew I was impressed. All the time I thought she loved me, yes I did. Now I know I was just another contest. But I'm a walking the floor thinking about you now. Wondering how I'm gonna make it without you. I've been a bold fool to let you do me wrong. And a crying and a canon.
Canon.
Now the way you hurt me.
Canon.
And I'm a bad mistake.
Canon.
Well, I guess I have to keep on canon. To the canon when I'm dead from heartache. Crying in a canon.
Canon.
And the way she hurts you.
Canon.
By your bad mistakes.
Canon.
But I guess you have to keep on canon. To the care you own when you're dead from heartaches.
Canon.
By the way you hate me.
Canon.
By my bad mistakes.
Canon.
But I guess I have to keep on canon. To the canon.
Alors nous voilà à Créteil. Créteil, qui se trouve dans la banlieue parisienne, cette banlieue avec des immenses buildings à 1012 étages, il y a un petit lac qui vous permet d'aller prendre l'air de temps à autre lorsque vous passez quasi, qu'est-ce qu'on dirait Marianne, 12 heures par jour presque dans les salles obscures. Alors on doit avouer qu'il y a des fois on est un peu craqué parce qu'on était là depuis vendredi à 2 heures jusqu'à dimanche 24 heures, même 1 heure du matin. Entre les films, les débats, les discussions, les rencontres, les interviews, un sandwich à gauche à droite, voilà quel fut notre rythme de vie pendant 3 jours en compagnie de Laurence et Bénédicte.
Et donc pendant ces 3 jours, on n'a pas seulement regardé les films, comme tu l'as dit, on a rencontré plein de gens et tout ça, ça a pris du temps.
Alors, quelle est l'optique du Festival international de femmes à Créteil ? C'est un festival qui existe depuis 1978, maintenant on dit 78 de nouveau, il fallait qu'on se contrôle tout le temps pour dire 78, 79 quand nous étions là-bas. Et donc c'est la 11e édition cette année, on en reparlera tout à l'heure parce qu'entre autres bien sûr nous avons eu la chance de rencontrer les deux organisatrices principales du festival. Et elles ont des optiques qu'elles se fixent chaque année. Cette année, elles avaient choisi entre autres de lancer un coup de chapeau aux images de femmes noires. Donc il y avait toute une programmation des femmes noires, africaines, américaines ou autres. Le téléphone nous dérange, merci. Il y avait l'envie de faire une rétrospective Liliana Cavani, une grande réalisatrice italienne. Il y a eu l'envie de passer de nombreux courts-métrages, des longs-métrages de reportage et des longs-métrages de fiction. Et pour chacune de ces catégories, il y avait un prix attribué soit par un jury, constitué de réalisatrices, de comédiennes, de comédiens, avec un réalisateur aussi. Et ce jury qui a attribué le premier prix du long-métrage fiction. Et le public a aussi attribué un prix, l'Association des journalistes et puis l'Association des jeunes comédiennes. Et tout cela a donné une distribution magnifique. On a eu droit à une soirée aussi en compagnie de Delphine Seyrig, une soirée en avant-première mondiale avec Colline Serrault, et puis une grande surprise dont on vous parlera tout à l'heure, parce qu'on ne va pas vous la donner tout de suite. Et donc, il y a des choix vraiment évidents, à la fois d'inviter des femmes qui présentent soit leur film en compétition ou pas, qui ne sont pas forcément des réalisatrices connues, et puis un certain nombre de têtes d'affiches qui attirent les gens, mais les organisatrices, vous verrez tout à l'heure, s'en expliqueront un peu plus en détail que ce que peut vous le dire maintenant. Nos choix, nous, Marianne, n'ont pas été tout à fait dans le sens des organisatrices, c'est-à-dire que nous, on n'a pas pu tout prendre, c'est évident.
Non, de toute façon, c'était impossible dès le départ, et on a fait le choix de vous présenter des femmes, surtout, enfin, leurs films, mais par leur intermédiaire, que peut-être vous n'avez pas l'occasion de connaître, qui nous ont plu par leur démarche, par aussi les images, surtout, qu'elles nous ont montrées, qui étaient très belles. Donc, nous, on a pris un peu un chemin de traverse, et c'est vrai que vous n'entendrez pas Colin Serrault à notre micro, ni Delphine Seyrig, mais bien d'autres gens, et je crois que ça vaut la peine.
Mais remarquez quand même que vous entendrez la réalisatrice qui a obtenu le premier prix du public.
Et oui, et nous l'avions interviewée avant, on est assez fiers.
Quel nez, n'est-ce pas ? Vous entendrez aussi la réalisatrice qui a obtenu le premier prix pour le long métrage documentaire. Ça aussi, nous en sommes très fiers. Vous entendrez aussi les comédiens du premier prix de courts-métrages décernés par les jeunes comédiennes. Donc finalement, même si c'est des personnes pas très connues, elles ont eu, je crois, la chance, mais surtout c'est un hommage que le Festival Laval a voulu rendre à ces gens et reconnaître la qualité de leur travail, même si elles ne sont pas encore universellement reconnues ou passent déjà leurs films dans les salles de cinéma.
Alors tout de suite, toi Catherine, tu as envie de rendre hommage à quelqu'un de surprenant?
Oui, je suis sûre que personne ne connaît, et d'ailleurs on l'avoue, nous non plus, nous ne la connaissions pas. Et c'est un hommage qu'a voulu rendre les organisatrices du festival à Matilda Landeta. Matilda Landeta, c'est une réalisatrice mexicaine. Et elle a fait du cinéma il y a très longtemps. Aujourd'hui, elle est âgée, disons, de 70 ans. Je ne sais pas exactement son âge, mais elle est très âgée. Et elle a fait du cinéma il y a très très longtemps. Nous naissions tout juste, je naissais tout juste, pardon. Et alors, le festival a voulu lui rendre hommage, faire une rétrospective des trois films qu'elle a réalisés à l'époque, et l'a surtout invitée comme membre du jury. Alors, l'histoire de Matilda, elle est un peu étonnante, c'est une histoire assez fantastique. Elle était jeune, dans un Mexique, bien sûr, ultra macho, ce qu'il est toujours d'ailleurs, comme elle nous le dira tout à l'heure, où le cinéma a commencé non pas avec des Mexicains, mais avec des Américains qui, de tout temps, ont cherché à dominer le Mexique. Et c'est eux qui sont venus tourner les premiers films au Mexique. Là, le frère de Matilda, parce qu'il est très beau, très joli, comme elle nous dira, se fait engager comme comédien et elle va le voir travailler. Et alors, pour elle, c'est le coup de foudre.
Je vais rester ici pour toute ma vie. J'étais à l'école. Et j'ai laissé tout tomber et j'ai entré comme script girl. On m'avait dit comme c'est ça, parce que je ne sais pas, je ne savais rien des choses. J'avais vu peut-être deux, trois films de Charles Chaplin avec ma grand-mère qui pense que le cinéma s'est empêché.
Vous vous imaginez, bien sûr, la réaction de sa famille quand elle dit qu'elle veut tout quitter, l'école, etc., pour commencer à faire du cinéma. Mais elle est sûre que désormais, le cinéma sera la seule façon d'exprimer ce qu'elle voit et ce qu'elle a envie de dire. Alors elle va commencer, bien sûr, par la petite porte. Elle va commencer par être script, elle le restera 12 ans, puis elle deviendra assistante de réalisation. Et bien sûr, elle a envie de devenir réalisatrice. Mais, c'est très, très difficile dans ce Mexique hyper macho, où bien sûr, il n'y a aucune femme qui se trouve derrière la caméra. Pourtant, en 1948, elle va réaliser son premier film. Et elle va pouvoir travailler comme réalisatrice seulement pendant quelques années. Elle aura le temps de réaliser trois films. Puisqu'après, et déjà pendant ces quelques années, on va tout faire pour interrompre sa carrière.
Mon frère m'a appuyé, je m'avais mariée et mon mari on m'avait dit « Bien, suivez-vous au cinéma. »
Il n'y avait pas du tout de femmes dans le monde du cinéma derrière la caméra à cette époque-là?
Non. Au Mexique, les prochaines femmes qui avaient fait ce travail, c'est 20 ans après de moi, Marcela Fernández Violante, c'est... la raison que j'avais coupé mon carrière, parce que c'est très, 75. Très difficile dans ce moment de faire le cinéma. J'avais donné tout l'argent, mon frère aussi, mes cousins, mes amis, tout le monde nous a donné l'argent pour faire les trois films que vous avez vus. Vous avez vu deux ici. Bien après ça, on m'avait coupé la carrière, tout le monde. Tout le monde, on m'avait dit, ce n'est pas pour les femmes.
Alors elle n'a pas le choix, ce n'est pas pour les femmes. Elle a beau essayer de lutter, elle ne pourra continuer son travail de réalisatrice. Elle va alors trouver toutes sortes d'autres façons pour rester dans le monde du cinéma. Elle va diriger elle-même un cinéma, elle va enseigner à l'Académie du cinéma, elle va participer au syndicat des membres des travailleurs du cinéma. Elle va écrire, elle va traduire des films pour le compte des Américains, elle va faire des courts-métrages aussi pour eux. Parce que pour elle, il n'est évidemment pas du tout question de quitter le Mexique. Elle va tourner, comme je vous le disais tout à l'heure, trois films, dont deux ont été montrés lors du festival de Créteil. Loza Casanova, qui a été tournée en 1988, et La Negra Angustia, tournée en 1949. Nous avons vu Negra Angustia. Alors, je vous raconte en deux mots ce film, parce que c'est assez rigolo. C'est vraiment un cinéma très, très particulier. Angustia, c'est la fille d'un paysan qui a attaqué les riches propriétaires terriens pour donner aux pauvres. Il est hors la loi parce qu'il a tué le patron qui s'en prenait à sa femme. Angustia, elle a vécu pendant de nombreuses années avec une vieille femme pendant que son père n'était pas là, retrouve son père et elle va à son tour tuer le fils du propriétaire qui veut la forcer à l'embrasser. Elle doit s'enfuir elle aussi, on refait l'histoire. Et tout à coup, dans un grand élan généreux, se trouve à la tête d'un groupe de paysans révoltés qui veut rejoindre Zapata, Zapata le fameux révolutionnaire mexicain. Alors que ce soit face à ces hommes, ces paysans qui la suivent ardemment, ou bien, par exemple, un peu plus en privé, face au professeur avec qui elle apprend à écrire pour pouvoir mieux dominer la situation et lire les affiches qui sont plaquées contre les murs, Angustia tient des propos étonnants, que ce soit contre le racisme, parce qu'elle souffre beaucoup d'être noire dans ce Mexique d'Espagnols blancs riches, et puis surtout, elle a des propos de femme étonnante. Entre autres, face à son professeur, elle dira « Il faut absolument que les femmes prennent le pouvoir, parce qu'elles savent mieux le faire, elles ont d'autres choses à dire. »
Il y a quelqu'un, personnage qui ont fait la révolution, comme les hommes.
Vous avez mis dans la bouche de Angustia des paroles qui concernent les femmes, n'est-ce pas? Est-ce
oui.
que les hommes n'ont pas été choqués de ce que vous lui avez fait dire à cette femme?
Si, je lui ai fait dire beaucoup de choses pour la, comme vous dites, la élévation des femmes. Pour, le Mexique, c'est un pays très macho. Très, très macho. Je dois dire que nous, les femmes, nous sommes en contre de cette manière de voir la vie. Et c'est par ces raisons que j'avais fait dire à la négra toutes les choses que je vais dire.
Alors le festival a décidé de rendre hommage dans sa rubrique « Enthousiasme » à Matilda Landeta, qu'elle a d'ailleurs nommée présidente du jury du festival. Et elle a aussi passé donc les deux films que je vous ai cités tout à l'heure. Alors Matilda nous a dit, en fin de notre interview, qu'elle a le très grand espoir de pouvoir refaire un film. Elle pense qu'elle le fera, tout comme autrefois, sur les problèmes du Mexique. Par exemple, la dette, par exemple, les problèmes avec ce voisin américain que personne n'aime. Mais est-ce que, pour elle, c'est aujourd'hui important que le Festival de Créteil montre ses films, même anciens, en France et en Europe?
Oui, c'est très important parce que nous venons d'être connus à l'Europe. Nous avons besoin de avoir une union avec les Européens, parce que nous sommes très loin. Nous avons besoin de nous montrer à vous qui est-ce qui nous sommes. Oh, j'avais été très émue parce que c'est comme vous dites, une surprise de voir que vous avez répondu à mes films comme ça. C'est extraordinaire. Je vous remercie.
De la musique pas tellement mexicaine, car déjà on passe à notre deuxième interview. Et là nous avons rencontré Wang Shukin, qui était une très belle rencontre. Il faut dire que c'est une Chinoise, que son film a été primé par le public. Elle a reçu le premier prix du public pour l'actrice et son fantôme. Alors peut-être deux mots sur le cinéma chinois. Il y a 9 studios en Chine qui sont des studios d'État, mais qui désirent en ce moment qu'ils se financent eux-mêmes, c'est-à-dire que chaque film, par sa propre production, arrive ensuite à réinvestir dans un nouveau film. Alors, Wang Shukin, elle, a produit son film dans un studio de Shanghai. Peut-être deux mots sur l'actrice et son fantôme, sur cette superbe histoire. Il faut dire qu'on est vraiment transporté dans ce film puisqu'on est dans la Chine. On va rester, on suit une petite fille finalement. C'est l'histoire d'une petite fille jusqu'à ce qu'elle devienne femme avec et qu'elle ait elle aussi des enfants. C'est une actrice qui s'appelle Kuin dans le film donc, et qui est élevée par son père dans une troupe de comédiens ambulants. Très vite, on perd de vue sa mère qui part avec un autre comédien et elle reste très attachée à son père et un jour, elle est comme ça, propulsée sur la scène, comme ça arrive des fois. Son père est très fâché, il lui dit « Comment tu es montée sur la scène? Tu ne m'as pas demandé mon avis. » Il la bat même, mais finalement, elle a tellement envie de faire du théâtre qu'elle y retourne et que lui, son père, va l'aider jusqu'à la fin de sa carrière. Et qu'est-ce qu'elle fait au théâtre? Elle interprète surtout un rôle masculin, celui de Zhong Kui, qui est un personnage dont on reparlera un peu plus tard, un personnage chinois mythologique. Et toute sa vie, elle va interpréter surtout ce rôle-là. Donc c'est son histoire qu'on suit aussi, c'est le problème de la comédienne par rapport à sa vie aussi, puisque c'est Zhong Kui, c'est le personnage qu'elle interprète, mais c'est aussi le fantôme qui la suit dans toute sa vie. Mais là, on passe un moment avec... Là, Catherine, tu veux me dire quelque chose, alors dis-le-moi.
Non, je voulais savoir. Je voulais te demander si il est habituel que des femmes interprètent des rôles masculins dans le théâtre chinois.
Oui, c'est tout à fait habituel que des femmes interprètent des rôles masculins et que des hommes interprètent des rôles féminins. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la première chose qu'on a demandé à Wang Shukin, c'est comment s'est déroulée sa carrière.
Parce que je suis né dans une famille, disons, des artistes. Mon père est un metteur en scène théâtral connu en Chine et ma mère a été une comédienne. Donc, et moi, alors, j'ai fait mes études universitaires dans un institut de cinéma à Pékin.
Est-ce que c'est facile pour les femmes en Chine de réaliser des films ?
Oui, mais c'est un phénomène un peu spécial pendant ces dernières années parce qu'il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de femmes réalisatrices en Chine et pendant 10 ans qui s'est écoulé, il y a environ 59 réalisatrices qui ont fait... Oui, pendant 10 ans, alors, ils ont fait 180 films en tout.
Et pour en revenir à votre film, donc vous nous avez dit avant dans le débat que vous avez voulu présenter une femme idéale, c'est ça? C'est important?
Alors oui, parce que je trouve que les femmes, surtout, il ne faut pas que leur vision se limite uniquement sur la famille. Le monde des femmes doit être aussi un monde complet comme tout le monde. Et voilà, c'est ce que je voulais montrer.
Justement, sur ces 189 films qui ont été faits par des femmes, est-ce que beaucoup parlent de la condition des femmes, des rapports hommes-femmes en Chine?
Au début, je pense que toutes les femmes réalisatrices pensaient qu'elles pouvaient faire des films aussi bien que les hommes, même les mêmes sujets que les hommes. Donc il n'y a pas spécialement une particularité sur les conditions de vie des femmes. Mais la plupart des sujets qu'ils ont faits, c'est plutôt la jeunesse et puis les films des enfants. Mais ces deux dernières années, alors, elles ont quand même pris la conscience de l'importance de traiter des sujets féminins.
Est-ce que vous, vous considérez comme être une féministe, une cinéaste féministe?
Mais en Chine, il n'y a pas de mouvement féministe. Mais alors, je trouve quand même c'est important de faire des films, mais avec... la façon de regard, le regard spécial et propre à des femmes, quoi. C'est-à-dire un regard des femmes.
Est-ce qu'il peut préciser ce qu'est pour elle ce regard des femmes?
Alors, par exemple, ce film est un exemple. Ce film qui est fait par une réalisatrice est certainement différent d'un film réalisé par un homme, même si c'est le même sujet.
Ce film a été bien reçu en Chine.
C'est pas très bien accueilli en Chine parce que je crois que le public n'est pas encore habitué à ce genre de film parce que je crois qu'ils sont plus ou moins habitués à des films réalisés par des films commerciaux ou bien des films réalisés par les hommes. Mais ce film est bien accueilli par contre par la critique et par les intellectuels.
Dans ce film, il y a beaucoup de choses. Il y a les rapports hommes-femmes, mais aussi les rapports entre la femme et son travail. Alors vous-même, comment ça se passe?
Alors, je suis déjà marié depuis 22 ans et j'ai un enfant de 21 ans. Et moi, tout ce que dans ma famille, j'essaie de faire que mon mari et mon enfant m'aident dans le travail. Par exemple, ce film, mon mari... et le Megonsa, le décorateur. Surtout son mari est spécialisé dans la peinture des masques d'opéra. Alors je suis vraiment inspiré par ces masques, les masques qu'il a fait.
Est-ce que ce film est un film autobiographique?
Oui, un peu autobiographique, mais pas tout à fait. Il y a aussi des choses de fiction.
Quelle est la part de l'autobiographie?
Apparemment, sa vie est relativement fidèle à la vie de l'actrice. Mais tandis que les idées qu'elle voulait montrer, c'est pas les mêmes, c'est pas forcément de l'actrice.
Est-ce que pour elle, c'est facile justement de diriger des hommes dans son travail de réalisatrice? Comme c'est pas très habituel.
Non, mais je trouve que c'est bien, on a bien collaboré parce que je pense que les hommes chinois sont doux et c'est facile à collaborer.
Comme vous l'avez montré dans le film, dans l'opéra chinois, des hommes interprètent des rôles de femmes et des femmes des rôles d'hommes. Le fait que de pouvoir interpréter des rôles d'un sexe différent du sien voudrait dire qu'on peut complètement s'identifier.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, bon, le théâtre chinois, il y a des moyens d'expression tout à fait fixes, hein, consacrés. C'est plutôt une procédure de façon d'interpréter. Mais souvent, les gens ne s'identifient pas dans leur rôle. Donc, ça ne pose pas problème dans la vie réelle.
Je voudrais savoir si les rapports entre les hommes et les femmes ont changé en Chine depuis ces dernières années, et en particulier si les hommes ont changé, comme par exemple en France, ils ont beaucoup changé depuis 10 ans.
Oui, les femmes sont de plus en plus conscientes de l'importance de leur indépendance.
Voilà, c'était donc Wong Shu-kin par l'intermédiaire de son interprète. Vous l'avez entendu en chinois derrière. C'était très beau du reste de l'entendre toujours parler en chinois. Ensuite, comme souvent après les films, il y a eu un débat. Et là, au début, on a pas mal parlé de cet opéra chinois, du personnage principal aussi du film Zhong Kui, que l'actrice interprète. Et puis, puisque c'est en fait une figure légendaire de la tradition et de l'histoire de la Chine, et certaines personnes l'ont comparé à Quasimodo, dans le sens que c'est quelqu'un qui est assez hideux, mais qui cache une âme généreuse et aussi humaine. En même temps, il symbolise la lutte contre le mal et contre l'injustice. Il semble qu'à la campagne, encore aujourd'hui, durant les fêtes de printemps, les paysans affichent son image, qui est une image protectrice, et la mettent sur les portes parce qu'il est le gardien de l'esprit. Alors voilà, ça c'était pour notre découverte du cinéma chinois. Très beau.
Thank you.
Alors, il y avait, on vous l'a dit, une rubrique qui était consacrée aux documentaires, courts-métrages ou longs-métrages. Et il se trouve que nous avons vu plusieurs parce que nous trouvons que c'est quelque chose de très intéressant. Par exemple, nous avons vu deux courts-métrages qui avaient comme sujet les femmes ici. Parce que bien sûr, il y a beaucoup de films qui sont réalisés par des femmes du tiers-monde et qui évoquent les problèmes des femmes du tiers-monde. Mais nous avions très envie d'aller voir ce qui se passait dans les films qui étaient réalisés par des femmes européennes ou du moins occidentales, parce qu'on avait vraiment très envie de savoir qu'est-ce qui se passait aujourd'hui parmi les femmes européennes et qu'est-ce qu'elles ont à dire.